Nombre de biographies mitraillent le courage comme seule raison de vivre. Comme un geste que nous voudrions arrêter avant qu'il ne s'achève, une révérence encline à tenir à distance celui-là même qu'elle salue. Depuis, nos biographies en dit, dans lesquelles nous ne trouvons pas plus de retranscription de l'enfer que de destinées héroïques, nous n'échappons pas non plus à la valse du mérite, ni à celle des chapeaux bas. Le courage nous est décerné avant même que nous ayons estimé avoir accompli quelque chose un minimum ténéraire. Vous avez bien du courage, nous entendons-nous dire, par toutes sortes de personnes qui croisent avec une étrange admiration presque dévote nos parcours de vie. Il apparaît en fait que peu importe la réalité de nos actes, ce courage nous est attribué d'office. Autrui décrète que nous en avons. Comme ce courage reste toujours indéfini par celles et ceux qui l'invoquent, il n'est jamais précisé, ni à quel moment, ni dans quel domaine de nos vies il excelle. Les noces du courage et du handicap se révèlent davantage état essentialiste qu'état de fait, mais d'un essentialisme lourd d'injonctions sociales. Sois courageux, sois fort, continue à te battre, dont le but, la cible et la conquête se tiennent en retrait, dans une marge floue, un espace indéterminé, car négligeable. Seul compte que le handicap s'érige comme un champ de bataille où il faut aller combattre. Combattre qui? Combattre quoi? Lorsque le champ se révèle être son propre terrain de vie. Le handicap comme chair à canon contre sa propre chair, semblerait-il. Une chair rendue chimérique par un mariage forcé entre l'espérance d'une puissance valide et l'empêchement d'une symbolique handie. Le long des rêves statuaires, ce que tu es ne suffit pas. Une habituelle rhétorique fantasmatique connectait déjà nos corps à l'intolérable monstrueux. En devenant héroïques, nous restons hors du commun, quitte à ce que cet extraordinaire nous englue de fictif, dont il est difficile d'ancrer une réalité lors du devenir adulte, au gré des mythologies familiales qui se scellent si aisément autour des adolescentes, des adolescents handis, magnifiant, amplifiant à loisir chacun de leurs actes, au point de leur signifier. Ce que tu es ne suffit pas, nous te préférons tel que nous te racontons. L'attribut du courage érige alors une forteresse, au sein de laquelle le handicap, la pathologie et leurs nombreuses équations de vie n'existent plus ni comme vécu, ni même comme intimité, mais se pétrifient d'intouchables à impérativement emmurer. Comment puis-je exister pour autrui, en tant que façade? Il apparaît bien vite que de la façade immobile s'extirpent des rêves statuaires, étouffant d'un silence monumental nos multiples, tels que je suis, afin que s'exhibent à foison les figures en série des « tels que vous me voulez ». Dès lors, le handicap se fait médium, forme modulable pour l'opinion, alors que de toute évidence, il est avant tout une modularité intime qui déplie, décline l'imprévisible des étapes de vie. Vouloir saisir l'ensemble d'un handicap, en faire un destin, c'est dessaisir les moments biographiques de celle, de celui qui l'habite, en le rendant monobloc, comme une masse insaisissable à quiconque, sans ancrage relationnel, simple exemplaire d'une rangée de bustes identiques, quadrillant la limite de la normalité. Ces bustes devenant des archétypes du handicap, des exemplaires du courage et donc de la peur qui le constituent, exposés à la vitrine d'un musée valide enjoignant à sans cesse épater la galerie. Ce geste révérencieux nous sculpte à la lueur d'une bravoure d'apparat, nous invite dès notre plus jeune âge à concentrer nos rapports de séduction sociale, d'estime de nous-mêmes, à nettoyer le handicap pour paraître le plus présentable possible en société valide, un handicap bienséant, le courage en blason. Un droit d'existence pervers régit nos enfances d'abord, nos adolescences ensuite, par stricte codification du privé et du public. À la maison, nous connaissons tes faiblesses. À la face du monde, nous ne montrerons que tes forces. Nous en inventerons au besoin. ce courage comme un faire-part du handicap à la fois naissance et décès, glorifié pour une toute autre réalité silencieusement occultée. Sois fort et tais-toi. Nos rencontres enfantines avec la douleur physique, qui ne manque pas de grêler lors de nombreux actes médicaux, seront très rapidement passées sous silence par les praticiens et ou les parents. Le subterfuge du courage donne lieu a priori à une valorisation de la volonté de l'enfant à faire face à la douleur. Enrôlement du petit soldat, à qui on promet bien souvent la victoire d'une guérison. Mais a posteriori, il ne sera permis à l'enfant d'établir aucun dialogue sur les douleurs physiques, et alors forcément aussi psychiques, qu'il traverse, autant qu'il n'aura accès à aucun accord de limite. Et la suite du piège consiste en ce que le courage à l'horreur ne cesse d'être encouragé. « Tu as été courageux, nous sommes fiers de toi », s'enchaînera souvent d'une prochaine épreuve douloureuse réclamant « Sois encore courageux, serre les dents ». Le courage, ici capitalisable à l'infini, déshumanise l'acteur courageux, l'actrice courageuse, au profit de l'acte médical. Et lorsque, adolescent, Landy voudra rompre cet engrenage du courage en refusant catégoriquement des actes médicaux pénibles, il lui sera reproché de ne pas être bien courageux. Lui-même sera accusé de rébellion et n'aura jamais aucune légitimité à remettre en question ses propos. L'absurdité de l'injonction au courage est soulignée par Hannah Arendt à propos d'Eichmann, répondant au juge qu'il aurait été courageux si le courage avait été structuré hiérarchiquement, si on lui en avait donné l'ordre. Arendt invalide le caractère inaugural du courage, en cela que le fait d'être courageux ne peut jamais être l'effet d'une obéissance à l'injonction de l'être. Note. Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, traduction A. Guérin, édition Folio, 1991. Fin de note. Et c'est en effet d'une injonction à l'être qu'il s'agit, lorsqu'il est requis par tous qu'un individu handi doit être courageux, un devoir qui semble relever d'une morale collective. Ne pas l'être, courageux, relèverait-il d'une immoralité, d'un acte indigne envers la communauté? Ainsi le courage englue-t-il le handicap dans une double contrainte. Accepte-le et bats-toi contre, ne pouvant créer qu'un toboggan vers le validisme, qui établit sa supériorité de performance par prétention à battre somptueusement les autres normes, en leur assignant l'évidence d'un retrait, l'en dehors d'une étrangeté de fête foraine, de bal des incomplétudes. Ce courage tant surélevé prend socle sur une peur qui s'enracine bien plus qu'elle ne germe, mais qui pourtant n'est autre que le sol de nos naissances et de nos vies jusqu'à nos morts. Mais alors, si nous déclinions d'endosser les mimes et les masques d'une bravoure d'apparat, si nous choisissions de faire naviguer nos existences à même nos « tels que je suis », aurions-nous une légitimité de parole publique, ou devrions-nous chuchoter ? Si la syntaxe valide organise tout mon langage vers le courage et que je décide plutôt de chanter l'incertitude de ma vie, quelles vont être mes possibilités de dialoguer sur mon vécu ? Du courage comme laisser-passer. L'étendard qui mène à la bataille contre son propre handicap ne déploie aucun potentiel vital, mais désagrège l'individualité en ersatz de survie, invite à considérer nos modalités d'être comme amoindries, voire insupportables. Il nous enjoint à les déplier dans l'attente d'une récompense qui sonnerait comme une reconnaissance d'existence contre la honte de la présence. La permission d'être, de se trouver là, en pays valide. Où commence, où s'arrête le courage prescrit? Un autre courage est-il possible? Le découragement est-il permis? Si je dois prouver aujourd'hui que je vaux la peine d'être vécu, qu'en sera-t-il demain, pour moi, pour les autres, pour nous qui demeurons tributaires de critères d'exécution pouvant être indéfiniment revus, redéfinis, revisités, avec le risque de voir s'étendre à l'infini les territoires du courage, du silence et de l'endurance, le risque même d'une césure? Ici devrait s'arrêter ton parcours, si tu en as assez, nous te comprenons, Ta vie est si étrangère à nos images du souhaitable. Ta mort ne serait-elle pas une libération ? L'injonction au courage peut ainsi aller jusqu'à délimiter, quantifier ce qui vaut ou non la peine d'être vécu dans une existence avec handicap. De cette façon, sous prétexte d'une qualité, le courage peut rapidement disqualifier une existence. L'opinion se saisit notamment de la thématique de l'euthanasie comme de la pierre angulaire du paradoxe du courage. Selon les unes, requérir l'euthanasie témoignerait d'un accomplissement courageux pour mettre fin au supplice d'une vie sous le joug d'un handicap. Pour les autres, l'euthanasie dénoncerait un manque de courage à endosser la mission d'une vie de martyr. Il semblerait que, d'une façon comme d'une autre, le courage opère en cache-misère de ce qui manque cruellement à l'existence d'un individu handi, le choix d'être par lui-même plutôt que pour et par les autres. Car le choix déguisé en courage s'avère un choix unique, une prophétie, qui déterminera la conduite d'une vie publique, là où nous voulons que nos choix soient indéfinissables, perpétuels et imprévisibles. Nous voulons croire que la syntaxe valide n'a pas conscience de son pouvoir de destruction, et admettons volontiers qu'il puisse être tentant de prendre ses propres critères de normalité comme les critères de normalité, et qu'en conséquence, des formulations au relent de « c'est comme cela qu'il faut faire, c'est comme cela qu'on fait » peuvent proliférer en traçant la frontière entre la bonne manière, la souhaitable, et les autres. C'est en cela que le courage, comme conduite, comme sens commun, ne nous convient pas, ne nous parle pas. Nous mesurons le courage comme un ensemble de réflexions, tentatives et positionnements individuels, pouvant varier à chaque moment de vie, et pouvant prendre des sens multiples suivant chaque biographie. Nous l'appréhendons comme une faculté de choisir comment surmonter, peut-être, mais également contourner, détourner les épreuves existentielles. En cela, il nous paraît inquiétant de vouloir ériger le courage en un modèle unique, permettant de se conformer à l'idéal social. Au fil de nos « tels que je suis ». Nos handicaps ne sont pas un idéal et ne cherchent pas à l'être. Nous ne sommes pas valides. Les déclinaisons de vie telles que les valides s'y entendent nous sont en partie étrangères. L'assurance d'une maîtrise indéfectible, ce pari quasiment gagné d'avance que tu accompliras demain les mêmes actes qu'aujourd'hui, avec l'évidence d'un geste si transparent que tu ne le vois même plus, tout ceci ne nous est pas familier. Nos corps changent de manière qui, toujours, procède au départ d'un renoncement à certaines parts de nous-mêmes. Toujours pousse au rejet. Toujours pousse au trajet en tant que celui-ci implique de renoncer successivement à des situations antérieures. L'aléatoire, non maîtrisable, définissent certaines modalités d'être handi. Et si cet ensemble prioritairement se connecte à la dépossession, tel geste, telle activité qui m'animait hier, progressivement grossissent peu à peu la troupe de mes impossibles. C'est pour mieux se déplacer vers une capacité d'accueil de l'événement, d'accueil de soi comme événement. Et pourtant, nous ne saurions faire quelconque matière à courage de cette succession d'équilibres, de ruptures d'équilibre, d'apprivoisement de soi indéfiniment en suspens, sans renoncer au terrain de nos échanges possibles. S'il me fallait être courageux pour me rencontrer moi-même, quelles seraient les tonalités de nos contacts? En aurais-tu même seulement l'envie? Mais que voulez-vous alors? Le savons-nous seulement? Nous observons les ravages d'un langage qui ne semble pouvoir nous énoncer qu'au rebord d'un extrême, qui nous dit courageux, valeureux et méritant, mais en même temps inapte, défectueux, porteur de quelques particularités que nul ne saurait souhaiter. Courageux car potentiellement à plaindre, en somme. L'ennui, c'est que nous avons appris à parler ce langage. L'embarras, c'est que nous ne parlons véritablement ni à quiconque, ni à nous-mêmes avec ce langage. Car il semblerait que le courage veuille plus faire parler du handicap que faire dialoguer les individus. Nous voyons bien que ce courage peine à soutenir nos sentiments de persistance, qu'il permet mal de faire proliférer une parole qui serait à même d'appliquer du sens à nos vies. mais il a pris jusqu'alors toute la place, au point que pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas parler de nos ordinaires. Les mots nous manquent. Nous en venons à raconter nos vies handicapées, plutôt que nos existences en tant qu'handi. C'est-à-dire que le handicap est rendu histoire, plutôt que nous-mêmes établissons ce qui fait histoire à nos handicaps. Là où le courage, l'incapacité, la tristesse viennent à s'appliquer sur le récit de nos vies, comme si de tels mariages allaient de soi, nous n'opposons, pour l'heure, que des cases vides. À la bonne heure, s'il ne s'agit que d'histoire. Sauf qu'il n'en est rien, car ce vide s'étend aux élaborations que nous pourrions rassembler pour penser nos expériences, en fonction de catégories qui nous seraient propres, mais néanmoins partageables. Le courage est adoré, adulé, son interlocuteur est la maladie. À eux deux, ils forment un spectacle pour le public valide, bien plus qu'une transmission, qu'un échange, qu'une élaboration. Alors que quotidiennement, nos manières d'agir impliquent la connexion aux gestes d'autrui et à l'environnement technique, à une vivacité d'adaptabilité qui ne cesse de déployer des possibles, de stimuler de la mixité. Or, cette communauté du geste, qui caractérise nos ordinaires, constitue un terreau de signification que nous tendons à laisser au mieux en friche, au pire au bon soin de description en termes d'incapacité et de dépendance, de vulnérabilité voire de solidarité. Nous sentons bien pourtant que des bribes créatives ayant à voir avec l'accord, la mutualité d'un échange, d'une attention partagée, pourraient s'étoffer si nous les pensions en elles-mêmes et par elles-mêmes. Mais encore faudrait-il que nous délaissions les rives tellement familières des beaux récits préparés pour nous, qui lient, nous et entrelacent à loisir les vœux exaucés d'un cercle, lequel se faisant tantôt vertueux, tantôt vicieux, modèle une légende plus qu'il ne permet une véritable prise de parole. Nous ne réfutons ni la force ni l'élan dont regorge la notion de courage, mais que cette force et cet élan alors ne soient pas utilisés pour transformer les handicaps en un point de fiction, ne rendons plus compte de la moindre réalité. Que le corps handi cesse d'être obligé de courage, qu'il cesse de se faire apologue acclamé plutôt que rencontre désirée. Car le courage, ainsi sollicité, s'avère bien plus une limitation à qui doit l'endosser. Peut-être est-ce cela que nous voulons. Texte coécrit avec Pierre Dufour, sociologue, Université de Toulouse, Le Mirail.